France Info. 20h, 21h, France Info, les informés.
Nicolas Creusel.
Bonsoir à tous. Une procédure de licenciement contre Alexandre Benalla, une commission d'enquête à l'Assemblée. Est-ce suffisant pour éteindre l'incendie? Alors que les oppositions réclament des explications à l'Assemblée, Emmanuel Macron fait silence et son Premier ministre Édouard Philippe a juste appelé au calme depuis Valence. Et oui, il n'était pas à l'Assemblée, mais sur le Tour de France. Pendant ce temps-là, la justice, elle, s'est mise au travail. Les enquêteurs aussi, Alexandre Benalla et Vincent Crass, sont en garde à vue pour s'expliquer sur ces violences contre des manifestants commises le 1er mai dernier. Mais est-on vraiment au bout de nos surprises? Qu'allons-nous encore découvrir sur Alexandre Benalla? On en a des questions à poser ce soir à nos informés qui s'appellent Virginie Le Petit, chef d'édition à Courrier International. Bonsoir.
Bonsoir.
Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Farah, économiste, chercheur et enseignant à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec vous, on évoquera également la mobilité propre. Que c'est beau ce nom. Mais de quoi s'agit-il? Du gouvernement qui annonce des mesures pour faire baisser la pollution dans les villes. Des mesures ou plutôt des idées en refilant la patate chaude aux élus locaux pour les mettre en place. Et puis le Tour de France, on entend désormais des sifflets sur le bord des routes. On a même vu des fumigènes. Les supporters de vélo deviendraient-ils des supporters de foot? Que se passe-t-il avec ce mythe qu'est le Tour de France? Ce sera notre dernier débat. Mais d'abord, bien sûr, l'affaire Benalla. Et on va commencer à aborder cette affaire par la tempête politique qui ne se calme pas. Toute la journée, les oppositions diverses et variées ont réclamé une prise de parole du Premier ministre, qu'il vienne à l'Assemblée nationale. Exemple avec Christian Jacob, le chef de file du groupe Les Républicains.
On est là au cœur de l'Élysée, au cœur du ministère de l'Intérieur. C'est d'une gravité sans précédent. Ça veut dire que le président de la République, aujourd'hui, s'entoure d'une équipe de barbouzes. C'est de ça dont il s'agit. L'Assemblée doit s'arrêter immédiatement. Le Premier ministre doit venir s'expliquer devant la représentation nationale. Mais c'est le cœur de l'État qui est atteint.
Alors la réponse, eh bien, elle est finalement venue du Premier ministre, mais depuis Valence, où Édouard Philippe est assisté au Tour de France.
Pour ceux qui, au-delà d'attendre les réponses, utilisent ces événements et ces questions à des fins soit d'obstruction parlementaire, soit d'exploitation politique, je leur dis, prenons tous ensemble le sens de nos responsabilités. La justice est saisie, les commissions d'enquête le sont également. L'opposition me demande de m'exprimer, je le fais ici à votre micro.
Et il le fera, dit-il, mardi à l'Assemblée lors des questions d'actualité, pas avant. Est-ce que la réponse vous suffit, les uns et les autres? Est-ce que vous comprenez aussi la colère des députés de l'opposition? Commençons peut-être par Hervé Nathan.
D'une certaine façon, oui, je trouve qu'il l'exprime peut-être pas très bien dans l'hémicycle. Parce qu'on va, on y reviendra forcément dans le débat qu'on va avoir. D'une certaine manière, les députés sont en train de discuter de la réforme de la Constitution, alors qu'on est devant un cas concret de dysfonctionnement grave, je vais pas dire gravissime, mais quand même grave, d'un des pouvoirs de la Constitution, qui est celui de l'exécutif. Et d'une certaine manière, l'exécutif qui presse les députés d'accepter une réforme constitutionnelle, par exemple de réduire le nombre. On sait que dedans il y a la réduction du nombre, il y a éventuellement la réduction des pouvoirs des parlementaires, etc. Ce pouvoir lui-même se conduit fort mal et ignore un certain nombre de principes, y compris les principes de la Constitution, la séparation du pouvoir. Il ignore, par exemple, le célèbre article, maintenant il va devenir très très connu, l'article 40,
le célèbre article 40
du code de procédure pouvoir, qui veut que toute autorité constituée, tout fonctionnaire qui constate constate la commission d'un délit prévient sans délai et il n'a pas le choix, c'est-à-dire on lui dit pas vous pouvez pas, il doit et sans délai saisir le procureur de la République. Le premier fonctionnaire qui n'a pas rempli son devoir là, c'est le président de la République, puisqu'il a été informé quasiment le premier de l'attitude de son subordonné, qui était M. Benalla, puisqu'il était licencié.
Il est
le premier fautif. D'une certaine manière, les députés devraient commencer à dire c'est le moment de discuter de ce que c'est que le pouvoir du président de la République, puisqu'on discute de la Constitution.
Alexia Germont.
Oui, alors au Parlement, c'est très intéressant, parce qu'on voit qu'il profite de ce projet de révision constitutionnelle pour se faire entendre de façon très soudée, on va dire, ce qui est suffisamment rare. Moi, je m'intéresserais plutôt à la commission parlementaire.
Qui va voir le jour dès la semaine prochaine.
Exactement. Hein. Là, ils ont réagi vite, bien, c'est très formel, c'est très républicain.
Elle a été acceptée auditions. Par la majorité, hein, cette commission, ce qui n'était pas...
Ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était compliqué, heureusement, mais c'était compliqué.
Il a fallu quand même leur demander plusieurs fois. Hein. Ils n'ont pas
alors,
été spontanés.
Alors, les auditions, juste pour finir là-dessus, les auditions se font à huis clos, c'est sous serment, ça me paraît très important aussi. Et on voit en revanche qu'il y a une ligne de démarcation, puisqu'il ne faut pas oublier que la commission ne peut pas venir empiéter sur les sujets qui sont d'ores et déjà maintenant des sujets judiciaires.
Alors, en un mot, Frédéric Farah, est-ce que quand même, Édouard Philippe doit aller à l'Assemblée avant mardi? Est-ce qu'on comprend ce tempo ou pas?
D'un côté, le gouvernement au départ a un petit peu minimisé l'affaire. Maintenant, on essaye d'esquiver. Je crois que ce tempo quand même pose un problème, d'autant plus qu'il révèle que finalement, il y a comme une espèce de dysfonctionnement entre, d'un côté, le gouvernement et le Premier ministre, et de l'autre côté, des collaborateurs étroits du président de la République. Et entre les deux, il y a une espèce de cacophonie, de dysfonctionnement, et comme si le gouvernement lui-même ignorait réellement ce qui se passe. Donc, si vous voulez, je comprends les parlementaires qui se disent, bon, est-ce qu'au moins le Premier ministre peut nous donner un début d'explication? Mais j'ai l'impression que cette explication, il faudra la chercher ailleurs que dans le gouvernement. C'est ça le problème.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, Virginie Lepetit?
Oui, tout à fait, parce que Benalla, c'est un homme du président, et à un moment, il va falloir que le président lui-même arrive à donner une explication, s'il en a une, ce qui n'est pas forcément le cas, et qu'il arrive à donner une explication. Oui. Et effectivement, on sent bien qu'il y a, en quelque sorte... Deux exécutifs, voilà.
Oui, on peut dire comme ça.
Et qui ne se parlent pas et que l'un subit les dérives de l'autre.
Alors, justement, la communication de l'Élysée, la réponse est-elle suffisante? On continue d'en parler ensemble, juste après l'essentiel de l'info en 1 minute 30, 20h10 sur France Info. Pauline Pénanec.
En Allemagne, à Lübeck, dans le nord du pays, l'auteur présumé de l'attaque à l'arme blanche a été interpellé. Un Allemand âgé de 34 ans, il a attaqué au hasard des gens dans un bus. 9 personnes ont été blessées, dont une grièvement. L'Élysée, en pleine crise, annonce le licenciement d'Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron, toujours en garde à vue, après une vidéo le montrant en train de frapper un manifestant le 1er mai à Paris. Le Premier ministre Édouard Philippe appelle à la responsabilité face à l'obstruction parlementaire et la récupération politique. 4 Palestiniens tués dans des bombardements de l'aviation israélienne dans la bande de Gaza. Israël qui ripostait officiellement à des tirs à la frontière. L'ONU appelle Israël et le Hamas à s'éloigner du bord du précipice. Antoine Griezmann, ovationné à Mâcon en Saône-et-Loire, l'enfant du pays au balcon de la mairie, a soulevé une réplique de la Coupe du Monde devant près de 3000 supporters.
France Info.
20h, 21h. Les informer.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir Virginie Lepetit de Courrier International, Hervé Nathan de Marianne, Frédéric Farah, économiste et universitaire, et Alexandre Germont du think tank France Audacieuse. On a entendu d'ailleurs ces députés tout au long de la journée demander au Premier ministre de venir à l'Assemblée nationale. Et dans la réponse qu'on a entendue tout à l'heure aussi d'Edouard Philippe, il y a deux choses. Il dit je vous parle ici et je vous parlerai mardi. Et puis il y a aussi la commission d'enquête parlementaire. Mais le Premier ministre dit aussi. Et accuse ses oppositions d'exploiter un peu de manière politique ou politicienne cette affaire, de souffler sur les braises. Alors, c'est de bonne guerre, me direz-vous, Virginie Lepetit?
Oui, c'est du pain béni pour l'opposition. Pourquoi n'en profiterait-il pas? En plus, vraiment, c'est quand même extrêmement choquant. Donc, effectivement, oui, ils soufflent sur les braises, ils en profitent. Mais ils pointent, malgré tout, quelque chose de réel. Donc,
et de sérieusement grave,
et
selon
de très
vous.
Grave, oui.
Je vous voyais opiner du chef Hervé Nathan.
D'abord, la réponse est d'un classicisme, ça devient politicien, etc. C'est une histoire c'est une manière d'esquiver la faute réelle qui existe. Par ailleurs, le rôle du Parlement dans une démocratie, c'est de contrôler l'exécutif. Donc, si on commence à contester le droit du Parlement à contrôler l'exécutif, et dans ce rôle-là, l'opposition, éminemment, c'est à l'opposition de le faire, on se fiche un petit peu de la démocratie. Je trouve que le Premier ministre, lui, joue un peu sur des velours. Il a un grand sourire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour une fois, il peut se montrer, c'est lui qui est l'arbitre. Entre le gouvernement, d'une part, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, qui est mis en cause, parce que lui aussi semble avoir menti, enfin avoir fait une version...
Ah, dont il est quand même le chef, Édouard Philippe.
Oui, il est chef, mais lui, à Matignon, apparemment, pour le moment, on n'arrive pas à mouiller Matignon dans cette histoire-là. Ce qu'on sait, c'est que l'Élysée est noyé jusqu'au cou dans les mensonges, parce que les premières versions données par Bruno Roger Poti, maintenant, a posteriori, ça fait rire ou ça fait grincer des dents, c'est peut-être pas très drôle. On s'aperçoit que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a menti devant la représentation nationale dans ses premières déclarations en disant « j'étais pas au courant, mais s'il était au courant, c'est lui qui a prévenu l'Élysée, ou quasiment. » Donc il est au courant en même temps que lui. Lui non plus n'a pas prévenu la justice, etc. Donc il y a deux personnalités importantes de la majorité, enfin le président et un ministre qui sont embourbés, et le premier ministre qui a l'air pour le moment de trouver son rôle assez confortable, assez bizarrement. Voilà.
Alexia Germont, oui.
On peut aussi lire peut-être dans la déclaration d'Édouard Philippe le rappel sous-tendu du fait que cette vidéo est sortie quand même par un militant très actif
de la France insoumise.
Alors après, évidemment, c'est normal et c'est de bonne guerre, mais il y a quand même un acte militant au démarrage de
la... La question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui reconnaît M. Benalla et qui signale nos confrères cet homme-là travaille à l'Élysée, il est important, c'est le garde du corps préféré du président de la République, celui-là a vraiment fait
parce un peu... Parce que sous le casque, ce n'était pas forcément militant. Très simple voilà. de le reconnaître
parce que
non
les,
plus.
Hein. Les militants du média, il faut saluer, parce que on conteste beaucoup le droit des citoyens de filmer les violences policières. Quand c'est pas des violences policières, tout d'un coup, on trouve ça tout à fait normal. Je signale quand même dans le débat...
C'est un petit parallèle que vous faites, effectivement.
Donc, il faut quand même saluer qu'ils ont fait, mais eux-mêmes pensaient que c'était des policiers jusqu'au bout, jusqu'à ce que Le Monde sorte l'info que c'était pas un policier.
Revenons quand même sur ce qui s'est passé ce matin, parce que vous disiez tout à l'heure, Hervé Nathan, que l'Élysée, la version d'hier matin de Bruno Roger Petit a du plomb dans l'aile, parce que finalement, on nous annonce ce matin le début d'une procédure de licenciement enclenchée pour Alexandre Benalla, qui avait, rappelons-le, été sanctionné dans un premier temps avant que l'affaire sorte de 15 jours de mise à pied. Et l'Élysée explique ce revirement non pas par le fait que c'est sur la place publique, mais par le fait, tout en disant, qu'il y a des faits nouveaux, et notamment cette histoire de vidéosurveillance qui aurait été transmise par des hauts gradés de la police pour qu'il prépare sa défense, Monsieur Benalla. C'est quoi ça ? C'est réellement des faits nouveaux qui justifient le licenciement, ou ça c'est juste pour masquer le fait qu'il n'y avait pas la mesure du scandale n'avait pas été prise ?
Il y a un point de droit du travail, j'essaie d'être rapide. Normalement, quand on a été sanctionné pour une faute, on ne peut pas être sanctionné une deuxième fois pour une faute. Le code du travail le dit comme ça. Donc, ils ont trouvé une deuxième faute, qui est effectivement une deuxième faute, c'est que Monsieur Benalla a cherché à se procurer auprès de policiers de la préfecture de police, qui est un autre scandale, c'est-à-dire qui est aussi constitutif du scandale. Cette histoire très importante, c'est il a réussi à avoir les bandes vidéo de la préfecture de police qui le mettait en cause.
Vous dites que c'est fait nouveau.
Ça, c'est une deuxième faute. Oui,
c'est fait nouveau.
Mais
c'est
évidemment, ça donne l'occasion. Ça y est, on peut s'en débarrasser.
Frédéric Farah.
Mais je crois que la gestion de la crise est catastrophique, parce que c'est fait nouveau. Ouais, on va pas nous dire que là, il les découvre comme ça un beau matin en disant ah tiens, des faits nouveaux, ça va être une base légale pour le licencier. Bon, c'est quand même déjà là. Et alors, ce gouvernement qui aime beaucoup une formule qui est j'assume, hein, vous savez, le gouvernement dit beaucoup ça dans ses réformes, là, il n'assume plus rien du tout. Et quand le Premier ministre en appelle aux responsabilités, on aimerait bien savoir où sont les responsabilités, parce que c'est bien gentil d'en appeler aux responsabilités. Si c'est juste une formule creuse pour essayer de noyer le poisson, ça me paraît un peu court. Et là, plus l'Élysée essaie de s'en sortir, essaie de trouver de formules pour essayer de dire, on n'est pas noyé dans cette affaire, plus ça devient, à mon avis, un peu pathétique.
Et est-ce que finalement, vous pensez qu'il y a eu des consignes pour étouffer cette affaire ? Parce que c'est un peu une question qu'on peut se poser aussi, puisque justement, on évoquait cet article 40, ces fonctionnaires qui n'ont pas alerté la justice, Virginie Le Petit ou Alexia Germont. Virginie Le Petit.
En fait, ce qui se passe, c'est il y a deux affaires en une. Il y a à la fois la première faute, qui est celle d'Alexandre Benalla, et la deuxième, qui est effectivement tous les mensonges et la dissimulation derrière, et qui est tout aussi grave. Donc, il y a ces deux affaires-là qui se succèdent, et finalement, moi, je pense que c'est la deuxième, c'est-à-dire la gestion de la crise, ou cette non-gestion de la crise actuelle, par la présidence, parce que c'est pas par le gouvernement, qui elle, va être profonde et dramatique.
Donc le fusible Benalla ne suffira pas, Alexia Germont ?
Non, certainement pas. D'autant que c'est une très mauvaise séquence où, pour la première fois, je crois, depuis le début de ce quinquennat, on s'aperçoit quand même qu'Emmanuel Macron est en retard. Il n'est plus le maître des horloges. Et c'est une des rares fois où on le sent pris à rebours par rapport à la maîtrise des sujets. Et puis la deuxième remarque, il subit les choses plus qu'il ne maîtrise maîtrise. Et la deuxième remarque qui me paraît importante, c'est que ça fait surtout souffler un soupçon, finalement, et un soupçon qui est à la fois de la présence, je vais le dire de façon assez elliptique, mais de la présence dans le premier cercle du président, de profil en tout cas pour le moins inapproprié.
Alors lâchons le mot de barbouze, parce que c'est celui-là qui est
mis. Je restais très ronde dans la formulation.
Est-ce que c'est barbouzard? C'est ce que dit ce soir le syndicat de police SGP FO, parce que finalement il y a un malaise aussi pour les policiers. Ils voient quelqu'un qui se mêlait à eux, usurper la fonction et peut-être aussi faire mal à leur image.
On comprend la colère des policiers.
Frédéric Farin.
Honnêtement, je crois qu'à travers cette affaire, il y a un mode de gestion du pouvoir qui est remis en cause. Parce que dans le fond, Emmanuel Macron, même pour ses réformes emblématiques sur le droit du travail ou autre, c'était pas tant le gouvernement qui était mobilisé que des cercles autour de lui, qui étaient des technocrates, qui maîtrisaient les dossiers. Et je crois qu'à tout niveau, c'était comme ça que ça fonctionnait, et que le gouvernement était un peu inconsistant. Et soudain, quand ça dérive sur quelque chose de beaucoup plus problématique, une réforme de la SNCF ou du marché du travail, quelque chose qui implique, on a vu, des actes pénalement répréhensibles, que ce mode de gestion devient complètement catastrophique. Parce que finalement, le gouvernement, qui est-il? À quoi il sert? Et que tellement on était dans une espèce de gouvernement technique depuis le début, mais resserré autour de M. Macron.
Excusez-moi, mais cette image de M. Benalla dont on dit, je reprends le mot barbouze, ça correspond pas à l'image du nouveau monde d'Emmanuel Macron, propre. Ça rappelle plutôt pas ce que...
Il y a de la méritocratie dans le parcours de M. Benalla, hein, c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même, etc., qui vient à la politique par conviction auprès des socialistes, puis ensuite auprès de La République En Marche, etc. Donc il y a l'engagement. Donc d'une certaine manière, il n'est pas disruptif par rapport à La République En Marche. Il n'est pas à côté. Justement, d'une certaine manière, fait bien partie. Alors, là aussi où il allait, pour certains, en tout cas, une partie de l'opinion, là où il fait tout à fait République En Marche, c'est qu'il a l'air de s'installer dans le pouvoir et d'en profiter à titre personnel assez largement. Parce que quand on voit quel statut il s'est taillé auprès du président de la République une fois installé à l'Élysée, un salaire apparemment de 10 000 euros par mois, un appartement de fonction, une voiture très importante, etc. Donc, il arrive à se tailler un pouvoir aux dépens de la police nationale et la gendarmerie. Parce que ce qui interroge, et là je pense que ce qui interroge, c'est le rôle que joue M. Strozza et son compère réellement ces jours-là, autour du 1er mai. Est-ce qu'il est là juste pour ses vacances, pour une journée de congé, pour s'amuser?
Alors, mais vous parlez de M. Benalla, alors pas de M. Strozza.
Vous
avez Strozza, le directeur de cabinet. Voilà. M. Benalla et M. Kras.
Dans l'enquête qui va avoir lieu, ce qui sera très intéressant, ce seront les questions qu'on posera à M. Strozza, le directeur de cabinet de l'Élysée, quelles consignes il a données et quel rapport il avait. Est-ce que finalement Monsieur Benalla n'était pas place de la contre-escarpe finalement sur ordre pour rendre compte après de ce que fait Monsieur Collomb sur le terrain?
Patrick,
par exemple,
Strozza, qui a été entendu hier soir en audition libre sous le statut de témoin. On y revient, on poursuit notre débat juste après l'essentiel de l'info. 20h20, Pauline Pénanec.
Journée sanglante à Gaza. 4 Palestiniens sont morts dans des bombardements intenses menés par les chars et l'aviation israélienne. Israël qui dit officiellement avoir riposté à des tirs à la frontière. Alexandre Benalla toujours en garde à vue. Ce soir, l'Élysée annonce qu'une procédure de licenciement a été engagée envers ce collaborateur d'Emmanuel Macron, filmé dans la manifestation du 1er mai alors qu'il frappait un homme, le brassard police, au bras. Gérard Collomb sera auditionné au Sénat mardi en fin d'après-midi par la commission des lois. 19 départements toujours placé en vigilance orange aux orages. Des orages violents attendus en Auvergne-Rhône-Alpes dans la nuit. L'est de l'Occitanie également concerné. Météo France qui prévient des rafales de vent supérieures à 80 km/h et de la grêle par endroits. 3e victoire d'étape pour le Slovaque et maillot vert Peter Sagan sur le Tour de France à Valence. Et la déprime d'Arnaud Démare qui termine à la 3e place. Le maillot jaune reste sur les épaules de Geraint Thomas.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec ce soir Virginie Le Petit de Courrier International, Alexia Germont, pardon, de France Audacieuse, Hervé Nathan de Marianne et Frédéric Farah, économiste et enseignant à Panthéon-Sorbonne. On parlait des fusibles tout à l'heure et vous nous disiez, Alexia Germont, que le fusible Benalla ne suffira pas. Vous évoquiez Hervé Nathan, Patrick Strozza, on verra bien, directeur de cabinet, que savait-il pas? Et cette affaire peut-elle remonter jusqu'à Gérard Collomb? Gérard Collomb peut-il être décapité, entre guillemets, en tout cas politiquement, par cette affaire, à votre avis, Alexia Germont?
Écoutez, on n'en est pas encore là, mais ça reste dans l'ordre du possible. D'autant qu'on parlait quand même, il y a déjà quelques semaines, d'un possible remaniement, éventuellement, d'ici la fin de l'été. On pourrait tout à fait imaginer que ça soit une porte de sortie aussi
élégante. Ça serait pas très honorable, hein.
Non, mais une porte de sortie quand même, avec un remaniement plus large.
D'accord.
Peut-être qu'il soit à ce moment-là avancé.
Donc
dans
une éviction masquée par un remaniement.
Une éviction masquée par un remaniement. Mais encore faut-il que laisser le temps déjà à la procédure judiciaire. Donc on risque d'avoir... c'est le sujet d'ailleurs ici. C'est qu'on a un emboîtement de poupées russes, finalement, d'affaires au sein de l'affaire.
D'affaires dans l'affaire.
D'affaires dans l'affaire.
Et on ne sait pas... de contre-feu pour l'instant.
Pour l'instant,
non. Souvent, on a des contre-feux quand on a ce genre d'affaires.
Pour l'instant, non.
Hervé Nathan, vous êtes d'accord avec... Parce que vous évoquiez tout à l'heure quand même le mensonge de Gérard Collomb devant la représentation nationale.
Oui, c'est ce que disent les députés qui l'ont entendu. Oui, il a dit qu'il n'était pas au courant. Donc, en fait, il est au courant. Ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, ils sont partis. D'abord, ils sont mal partis dès le départ. C'est-à-dire, à partir du moment où ils n'ont pas saisi, on revient à l'article 40 à chaque fois.
Oui.
Ils ont fait une erreur de départ, qui était, ils auraient dû saisir la justice tout de suite, sans se poser la question de savoir s'il y avait plus ou moins de proximité entre le personnage qui a été mis en cause et le président de la République. Ils ont fait plusieurs erreurs. Ils ont prévenu le président de la République. Par exemple, Monsieur Strozza, il téléphone au président de la République pour l'informer. Et le président de la République répond, prenez des sanctions. Mais d'une certaine manière, du coup, on lui dit, mais vous auriez Monsieur le Président, vous auriez dû prévenez la justice. Le préfet, Monsieur Strozga, qui est un préfet, un très grand préfet, il était préfet de la région Île-de-France, donc ce qu'on appelle un fonctionnaire d'autorité, qui connaît l'article 40 parce qu'il a dû l'activer des centaines de fois dans sa carrière. Il sait très bien que ça existe, qu'il aurait dû le faire, il ne le fait pas, etc. etc. Donc ils sont très mal tous. Donc toute la chaîne est prise comme ça, dans le mensonge. Le ministre de l'Intérieur, il peut dire, moi j'ai prévenu l'Élysée, c'était chez eux, c'était à eux de le faire, mais il se débarrasse de sa responsabilité sur le président de la République, c'est très très mauvais pour un ministre de faire ça. Donc, effectivement, il y a un emboîtement de poupées russes, et puis il y a l'apparition aussi d'une mainmise de l'Élysée sur la police, parce qu'il y a d'autres questions qui se posent. Par exemple, que faisait ce personnage avec un talkie-walkie de la police? Il passait des ordres, il écoutait ce que faisait la police, qu'est-ce qu'il faisait exactement?
Et quand on apprend aujourd'hui aussi, par un communiqué de la préfecture de police de Paris, qu'ils ont découvert l'existence du deuxième homme, Vincent Crase, en écoutant le porte-parole de l'Élysée hier matin, alors qu'on nous avait dit que les deux avaient une autorisation d'être des observateurs. Ça paraît, là aussi, il y a un hic entre ce qu'on nous a dit hier et ce qu'on sait aujourd'hui, Frédéric Farah.
Mais si vous voulez, là encore une fois, fusible ou pas fusible, tant que le président de la République n'est pas capable de produire un discours clair sur ce qui s'est passé, etc., vous pouvez faire sauter tout le monde, et Collomb, Philippe, les uns, les autres, tous, hein, tout le gouvernement, même ceux qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Puisque désormais, il y a dans ce jeu d'emboîtement, la réalité du pouvoir, elle est auprès des collaborateurs de l'Élysée avec le président de la République. Alors tant que le président de la République ne veut pas s'exprimer...
Il faut qu'il parle, selon vous.
Oui, à un moment donné, on peut pas infiniment trouver des fusibles qui sont plus ou moins satisfaisants et gagner du temps, mais jusqu'où? Et jusqu'à quand?
Virginie Le Petit, vous pensez qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer, doit couper quelques branches pour essayer de... Comment on met un cordon sanitaire autour d'Emmanuel Macron?
C'est... Mais je pense qu'il est beaucoup trop tard pour ça. Le cordon sanitaire, il est plus possible. L'image et la moralité du président sont ternies. Vraiment et durablement. Très honnêtement, moi, je comprends pas vraiment comment ils vont pouvoir se sortir de ça. Et tous les fusibles du monde, on vient de le dire, n'y changeront rien. Et effectivement, il aurait dû s'exprimer depuis très longtemps, Emmanuel Macron, après avoir fait cette première erreur.
Très longtemps, ça veut dire qu'on aurait dû le savoir dès le 2 mai et avoir une clarification le 3 mai du président de la République.
Oui.
Pas attendre que par
absolument.
On ne sait quel mystère cette vidéo arrive sur le site du journal Le Monde.
Parce
que sans ça, il n'y a pas d'affaire.
Oui.
Si elle n'est pas sortie par la presse, il n'y a pas d'affaire.
Non, sans ça, c'est une vidéo, alors bon, on en reparlera plus tard, mais qui paraît presque pas anodine, c'est pas le mot, parce que c'est loin d'être anodin, mais une vidéo, bon voilà, lambda, qui circule, et effectivement, avant ça, il n'y a pas d'affaire, mais effectivement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est prévenir le procureur de la République. À partir du moment où il ne le fait pas, le président et les gens qui l'entourent, là, tout est fichu. Moi, je pense réellement que tout est fichu.
Alexia Germont.
Quand je parlais tout à l'heure de souffle du soupçon, c'est la même chose. Là, sur le fait qu'il y ait éventuellement un couvercle qui a été mis sciemment, parce que c'était une personne du premier cercle.
Dont on apprend aujourd'hui qu'elle avait un logement de fonction au Quai Branly.
Oui, alors pour quelqu'un qui a été mis à pied, on a vu mieux. Effectivement.
Mais on se demande si on va en apprendre encore un peu plus tous les jours, non?
Oui, mais parce que dans le fond, on se rend compte d'un truc qui est terrible, que la loi des principes républicains passe après des fidélités personnelles.
Et ça, c'est... Alors ça, c'est pas nouveau, hein, on me dira,
non,
en politique.
Non, mais c'est pas nouveau.
La cinquième, on peut multiplier les exemples.
Oui, nous sommes d'accord. Mais le président de la République, au-delà du fait qu'effectivement, sa fonction, c'est de garantir les institutions, a construit toute une campagne sur l'idée qu'il fallait restaurer l'autorité de l'État. Il a fondé sa campagne là-dessus pour dire que c'était ça qui allait être sa marque de fabrique par rapport au fait que l'État, précédemment, avec les présidences antérieures...
C'est le nouveau monde, quoi. Nouveau monde.
Et le nouveau monde est finalement, pour reprendre l'expression de Christian Jacob, le nouveau monde, c'est les barbouzes. Bon, alors c'est un peu embêtant parce que on peut pas avoir construit, comme on dit, tout un
storytelling... C'est ancien, les barbouzes.
Oui, voilà. tout un storytelling, comme on dit aujourd'hui, sur la fonction, la verticalité, l'autorité de l'État, pour finalement découvrir que c'est un monde de coups tordus.
C'est ce que vous vouliez dire, je crois,
oui.
Virginie Le Petit.
C'est exactement
le côté,
ça.
Ce décalage entre... Le problème, c'est que quand on veut être quand on demande et qu'on promet
et
d'être irréprochable...
Et qu'on est censé incarner cette autorité de l'État et un monde sans tâche. Pardon.
Alors, on verra justement, puisque...
Je pense qu'il y a un président de la République qui doit bien rigoler là en ce moment, il s'appelle François Hollande.
Oui.
Parce que lui au moins, c'est certain, quasiment, lui pourra dire, moi j'aurais jamais eu une histoire pareille. Quand on pense à la manière dont le président de la République actuel s'est bâti par rapport à son prédécesseur, c'est incroyable.
Il doit peut-être savourer effectivement devant, en écoutant la France Info. On y revient dans 4 minutes, le retour des informés, à tout de suite.
Il suffit de 6 numéros. Ce samedi, jackpot loto de 17 millions d'euros et 10 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. France Info Météo, avec CIC et vous. Pour ne pas avoir à choisir entre l'humain et le digital. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Élodie Calac, Météo France.
On surveille encore les orages ce soir et cette nuit. Des orages parfois violents avec de bonnes pluies, de la grêle et du vent de l'Occitanie vers l'Auvergne et Rhône-Alpes. Ils se décalent vers l'est au fil des heures. Demain, il faudra encore composer avec quelques averses sur l'Occitanie, quelques orages de l'Alsace jusqu'aux Alpes. Sur les côtes du sud de la Bretagne, vers la Gironde, là aussi, quelques averses orageuses attendues. Ailleurs, ce sera agréable avec des éclaircies, parfois quelques averses, plein soleil près de la Méditerranée. Il fera 12 à 22 degrés le matin, l'après-midi 23 degrés à Brest, Bordeaux, 24 à Strasbourg, 26 à Paris, 27 à Lyon, 31 degrés à Marseille. Les températures remonteront à partir de dimanche. Elles seront chaudes la semaine prochaine.
C'était Élodie Calac, France Info, 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
On retrouve Rémi Inc.
Crise politique majeure jusqu'au plus haut sommet de l'État. Alexandre Benalla, conseiller de l'Élysée, filmé en train de frapper un homme pendant une manifestation, mais l'exécutif en difficulté. La présidence de la République a décidé d'engager une procédure de licenciement à son encontre. Alexandre Benalla placé en garde à vue. Ce matin, une enquête est ouverte par le parquet de Paris. À l'Assemblée nationale, les débats sont restés bloqués aujourd'hui. La journée rythmée entre rappel à l'ordre du jour et demande de suspension de séance. Les députés des oppositions qui continuent d'exiger que le Premier ministre Édouard Philippe vienne s'expliquer devant eux sur cette affaire Benalla. Julie-Marie Lecomte.
Réunion de crise. En début d'après-midi, François de Rugy, le président de l'Assemblée, convoque les présidents de groupe. Édouard Philippe ne viendra pas, il est sur le Tour de France. Et le républicain Christian Jacob ne décolère pas.
Le gouvernement refuse de venir devant la représentation nationale. Clairement, le Premier ministre a décidé de donner une fin de non-recevoir aux demandes du président de Rugy. Donc on est dans une situation de bras de fer.
Toute l'opposition fait bloc. Fait rarissime, relève Sébastien Jumel pour le groupe communiste.
Je ne suis d'accord en rien avec... des propositions de la droite, mais nous sommes d'accord pour dire qu'il y a crise institutionnelle en l'occurrence. Ce qui me rassure, c'est que l'opposition joue son rôle de veille sur les fondamentaux de la République.
Les députés devaient rester tout le week-end pour avancer sur la réforme constitutionnelle. À la place, l'enlisement risque de se poursuivre, avertit la socialiste Valérie Rabault, présidente du groupe Nouvelle Gauche.
On va voir comment les choses évoluent, mais pour l'instant, nous avons les ressources pour continuer jusqu'à dimanche.
À l'arrivée de l'étape qu'il a suivie dans la voiture du directeur de course, un rêve d'enfant, disait-il plutôt, le Premier ministre en appelle à la responsabilité responsabilité et au sang-froid face à ce qu'il qualifie d'obstruction parlementaire et de récupération politique.
Et puis rappelons que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera auditionné ce mardi à 17h45 par la commission des lois du Sénat, constituée en commission d'enquête. Cette audition qui sera ouverte au public et à la presse, retransmise également en direct sur le site internet du Sénat. Tariq Ramadan reste en prison, accusé de viol. L'islamologue suisse espérait obtenir l'annulation de ses mises en examen en dénonçant des contradictions dans les récits des plaignantes, mais les juges ont rejeté aujourd'hui sa demande. Selon eux, les indices graves ou concordants qui ont présidé à la mise en examen de Tariq Ramadan subsistent. Tariq Ramadan qui est incarcéré depuis le 2 février. Des cours de promenade plus grandes, mieux équipées, plus sûres. Le tribunal administratif de Melun a ordonné à l'État de faire d'importants travaux dans la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. C'est l'une des plus surpeuplées et dégradées de France. Les travaux qui devront être mis en œuvre dans un délai de 6 mois. Le ministère de la Justice a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision et demander la suspension de l'exécution du jugement. Les trains au départ à l'arrivée de Lyon fortement perturbés ce soir en raison des intempéries. De gros coups de vent ont provoqué de nombreuses chutes d'arbres sur les voies ferrées. La SNCF compte sur un retour progressif à la normale dans la soirée. Et puis le retour d'Antoine Griezmann à Mâcon, en Saône-et-Loire, sa ville natale. L'attaquant des Bleus, champion du monde, a aujourd'hui salué des milliers de supporters sur le balcon d'honneur de l'hôtel de ville.
Il est 20h33, c'était Rémi Inc.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et les derniers développements de l'affaire Benalla occupent nos discussions dans les informés depuis le début de l'émission avec ce soir Hervé Nathan de Marianne, Frédéric Farah, économiste enseignant à la Sorbonne, Alexia Germont de France Audacieuse et Virginie Le Petit de Courrier International. Il y a une question quand même qu'on se pose, qu'on peut pas ne pas se poser. C'est qui avait intérêt à ce que cette affaire sorte, selon vous? Qui a balancé cette vidéo? Est-ce qu'on vous avez une idée de qui ça sert? Enfin, qui ça sert, on voit bien, mais qui a pu être derrière? Peut-être Hervé Nathan. Des infos, Marianne?
Non, j'ai pas l'info, donc c'est une supposition. Ce qui est vrai, c'est que, d'une certaine, enfin, il est évident que la mainmise de M. Benalla sur la sécurité et l'abus de sa position a dû mécontenter les policiers et les gendarmes.
Les vrais, enfin ceux qui sont censés être, parce que normalement la sécurité du président de la République, c'est codifié.
Voilà. Normalement, c'est eux qui sont en charge de la sécurité du président. Ils sont légitimes pour ça, ils sont entraînés pour ça, et ils ont un personnage qui apparemment n'était pas tout seul, si on commence à voir les enquêtes, c'est qu'il y a une petite équipe qui est aussi de non-policiers, de non-gendarmes, qui s'est installée à l'Élysée, qui semble-t-il a commencé à régenter tout l'entourage du président et de son épouse. Parce que, semble-t-il, la caractéristique de M. Benalla, c'est d'être très proche à la fois du président, mais aussi de son épouse Brigitte, et donc peut-être, c'est ça aussi, c'est qu'il est tellement au cœur de l'intimité au sens simple du terme, que on a hésité à le pousser dehors d'un seul coup d'épaule.
Donc une exaspération, ouais, une exaspération peut-être cachée du GSPR.
Il a pu exaspérer des gens, pas seulement au GSPR, il y a aussi la hiérarchie de la police, il y a aussi la hiérarchie de la préfecture de police, il y a aussi peut-être le mécontentement de ce qui se passe depuis un certain temps dans les manifestations autour. Il n'y a pas forcément que de l'intérieur de l'Élysée.
Alexia Germont, vous êtes...
Oui, c'est certainement une piste qui peut être regarder avec intérêt, parce qu'il faut toujours chercher à qui cela profite.
Moi, j'ai jamais vu l'intérêt de chercher les sources des journalistes. Hein. Je vous le dis tout de suite, pour que ce soit clair. Je trouve que quand les journalistes révèlent des choses, il faut d'abord s'occuper des choses avant de s'occuper de leurs sources. Voilà.
C'est un principe, effectivement, qui... Non, mais on peut aussi s'interroger de savoir d'où ça vient. Voilà, c'est aussi une question. Après, c'est à vous de nous dire si ça vaut le coup de chercher ou pas. Juste, puisque nous avons ce soir Virginie Le Petit qui travaille à Courrier International avec nous, moi, j'aurais aimé savoir, en prenant un peu de hauteur, ce que ça dit de notre pays et comment c'est regardé à l'étranger. Est-ce que vous avez commencé à regarder un peu ce que disent nos confrères?
Oui, nous avons commencé à regarder ce que disaient nos confrères à l'étranger et ils sont quand même abasourdis et plutôt consternés. Donc le journal suisse Le Temps parlait de l'Élysée version violence ce matin. Tous pointent une gestion de crise catastrophique. Le New York Times affirme que ça enfonce un peu plus le clou sur une présidence monarchique. Mais ce que je trouvais le plus intéressant, c'était le journal belge Le Soir, qui lui se demande pourquoi cette vidéo qui a circulé, pourquoi a-t-elle acquis une importance médiatique seulement maintenant ?
Parce qu'elle était avant d'être sur le site, voilà. C'est ça, vous voulez dire, avant d'être sur le monde,
avant
elle était déjà sur YouTube.
Avant que l'on sache qui était l'auteur des coups. Et donc, ce que constate le quotidien belge, ce qu'il avance comme hypothèse, c'est que la France a fini par s'habituer à la violence de la part des forces de l'ordre, et que ce que se révèle en fait aussi cette affaire, c'est ça. C'est que la violence policière est devenue quasi banale, et qu'elle ne prend une importance politique que si quelqu'un du gouvernement ou de la présidence est mouillé.
Frédéric Farah.
Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui va ressortir ? Qui va ressortir encore plus discrédité ou sali ? C'est les forces de l'ordre. Et qui, dans le fond, il va avoir une suspicion supplémentaire sur elle et le travail qu'elle réalise. Et tout ça, ce n'est pas quelqu'un des forces de l'ordre qui est à l'origine de cette affaire, même si elle se retrouve mêlée. C'est finalement une personne quasiment privée.
Est-ce que, Alexia Gérard...
Et n'oublions pas quand même que le 1er mai, ce dont on parlait le soir, c'était la violence face au Black Bloc.
Remettons les choses. Mais est-ce que on peut considérer, vu de l'étranger, que c'est un mal français de vouloir peut-être étouffer des affaires, de vouloir. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui ressort ?
C'est pas un mal français. Les États-Unis nous démontrent quand même assez régulièrement que c'est quelque chose qui est largement partagé et par d'autres gouvernements encore. Pardon. Ce qui est très étonnant, c'est que souvent les conséquences sont beaucoup plus immédiates et les sanctions sont beaucoup plus immédiates sur des gouvernements étrangers démocratiques. Parce que bon,
parlons des démocraties, voilà, des systèmes qui sont censés fonctionner à peu près correctement. J'ai bien dit à peu près.
Voilà. Et là, ce qui revient souvent sur ces affaires-là, ces affaires françaises, toutes ces affaires de corruption, c'est que les choses prennent énormément de temps et que finalement, les sanctions ne sont pas si immédiates et définitives que cela. C'est-à-dire que les carrières politiques ne s'arrêtent pas forcément, elles s'interrompent parfois. Et c'est souvent cet étonnement-là qui revient, en fait.
C'est qu'en France, on n'est jamais politiquement tout à fait mort. C'est
voilà, ça que vous quoi dites. Qu'on fasse.
Est-ce que ça peut nuire quand même à Emmanuel Macron on voit qu'Angela Merkel sur la scène européenne est affaiblie. Il y a Theresa May en difficulté avec son Brexit. À côté, il y a deux pôles, incontestablement, qui sont peut-être en train de s'allier, Trump et Poutine. Et on aurait pu se dire que la voie du milieu, c'était Emmanuel Macron, et non ?
Non, Emmanuel Macron, sur la scène internationale, était déjà quand même dans une pente descendante.
Il descendait déjà.
Oui, et notamment depuis la visite à Washington, où il n'a absolument rien obtenu de la part de Donald Trump. Donc, ça ne va pas l'aider, mais il était de toute façon, son aura avait déjà bien, bien pâli. C'était pas aussi fort qu'au début.
Alexia Germont.
Du point de vue du monde anglo-saxon aussi, ils sont certainement très sensibles au fait que l'on mente après sous serment. Ça, c'est des questions c'est gravissime et on devrait certainement revoir ces points-là émerger dans la suite de la procédure.
On a tout dit sur cette affaire, messieurs, mesdames, on est d'accord. Enfin, en tout cas pour ce soir.
En tout cas pour ce soir.
Demain, si vous voulez.
On peut se retrouver demain parce qu'à mon avis, il y aura d'autres épisodes.
Vous savez quoi ? On se retrouvera lundi pour continuer d'en parler. Et en attendant, juste après le rappel des titres de l'info, nous évoquerons un autre sujet : comment on peut lutter contre la pollution. Le gouvernement a présenté un plan ce matin, mais il laisse son application aux élus locaux qui risquent de grincer quelques dents. On en parle juste après l'info, 20h40, Pauline Pénanec.
Il appartient aux instances d'apporter les réponses aux questions que se posent les Français. Déclaration d'Édouard Philippe en pleine affaire Benalla qui secoue l'Élysée. Le Premier ministre qui en appelle à la responsabilité face à l'obstruction parlementaire alors que les débats à l'Assemblée ont été une nouvelle fois interrompus. Les deux collaborateurs d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla et Vincent Kras, sont toujours en garde à vue. Trois gradés de la préfecture de police ont été suspendus. Trois projectiles ont été tirés de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Deux ont été interceptés en vol, c'est ce qu'annonce l'armée israélienne. L'aviation israélienne qui poursuit ses attaques dans la bande de Gaza. Quatre Palestiniens ont été tués. En Allemagne, à Lübeck, dans le nord du pays, un homme de 34 ans arrêté, auteur présumé d'une attaque au couteau dans un bus. Attaque qui a fait 9 blessés, dont un grave. Et puis une victoire, celle de l'équipe de France féminine de rugby à 7. Elle s'est qualifiée sans peine pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en dominant le Japon 33-7 à San Francisco.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Et nos informés ce soir, c'est Virginie Lepetit de Courrier International, Hervé Nathan de Marianne, Frédéric Farah, économiste et universitaire, et Alexia Germont de France Audacieuse. Le gouvernement, on va changer de sujet et quitter l'affaire Benalla. Le gouvernement a dévoilé ce matin de nouvelles mesures pour lutter contre la pollution dans les grandes agglomérations, favoriser les alternatives à la voiture individuelle, développer par exemple le covoiturage, on va y revenir, mais aussi pointer du doigt les véhicules les plus polluants en mettant en place des restrictions de circulation pour les véhicules plutôt anciens, les vieux diesels. Ça se fait déjà à Paris et à Grenoble lors de pics de pollution avec la pastille Critère. Il faut le faire ailleurs, a dit ce matin Nicolas Hulot, mais en laissant aux élus locaux le soin de définir les contours de ces nouvelles restrictions.
Il ne faut pas imposer un canevas de Paris. C'est bien aux élus de définir le périmètre des zones à faible émission. C'est également aux élus de définir les catégories de véhicules qui doivent être concernés. Et c'est enfin aux élus de définir les plages horaires dans lesquelles on veut mettre en place ce dispositif.
Alors quand on voit comment à Paris et à Grenoble la mise en place de ces restrictions de circulation a fait grincer des dents et provoqué parfois la colère de certains automobilistes, est-ce que c'est pas un peu facile ça de décréter à Paris qu'il faut le faire et de dire aux élus locaux des 15 métropoles concernées, notamment Marseille, Aix, Nice, Lyon ou Strasbourg, bah, débrouillez-vous pour le faire ? Frédéric Farah.
Si vous voulez, maintenant, c'est devenu dans les politiques publiques un grand classique. C'est-à-dire comme l'État, par exemple, quand il veut limiter ses déficits, quand il veut se décharger de certaines missions, c'est toujours sur les collectivités locales que ça retombe, et tout en demandant des efforts budgétaires de plus en plus à ces collectivités. Donc finalement, on leur demande de plus en plus de missions, l'État se décharge sur elles, et ensuite, à bon dos, de leur reprocher de ne pas en faire assez dans différents domaines. Donc je trouve que cette espèce d'hypocrisie est un petit peu insupportable, et je comprends que les communes peut-être râlent et elles ont des raisons de râler, je trouve.
Alexia Germont, vous êtes d'accord?
Oui, c'est le moment où la politique girondine retrouve ses charmes pour l'État. on va le dire comme ça.
Exactement.
Alors, ce qui m'a paru très intéressant, en revanche, c'était dans la présentation aujourd'hui, cette présentation conjointe qui a été faite par
Nicolas Hulot et
Elisabeth Borne, tout à fait. Mmh. Alors, on voit bien que Nicolas Hulot est sur une partie plus technique où il explique quel est le plan avec la généralisation des zones à faible émission, le développement massif des transports alternatifs, donc en commun, covoiturage, etc. Le plan vélo qui est détaillé, renvoyé
plus tard,
voilà, septembre, octobre, mais on sait qu'on a un objectif, c'est être aussi bien que les autres. Et bien sûr, le push sur la voiture électrique. Et ce qui m'a semblé très intéressant, c'était notamment la prise de parole d'Elisabeth Borne, qui, elle, en appelait à la notion de responsabilité collective, où elle mettait un certain nombre d'acteurs côte à côte, donc l'État, les collectivités locales, les entreprises et les citoyens. Et j'ai trouvé qu'il manquait en fait une strate, oui, ce sont les associations. Parce que ce n'est pas aux entreprises de faire cette pédagogie-là, ils peuvent faciliter la vie des citoyens qui travaillent, mais les associations ont tout ce travail de pédagogie aussi.
C'est important la pédagogie, parce que quand on met en place ce type de mesures face à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de changer de voiture, c'est ça l'argument. Hein. Ma voiture, elle pollue trop, mais moi, je ne peux pas la changer. Ça crispe un peu quand même. Je vous vois faire la moule, Hervé Nathan.
D'abord, j'ai trouvé que Nicolas Hulot, il croyait à peine à son plan. Si on reprend sa déclaration, la France va peut-être, le mot peut-être est quand même important, peut-être enfin prendre le taureau par les cornes. Il n'est même pas sûr de ce qu'il propose. Bon, alors on connaît Nicolas Hulot, c'est un pessimiste actif, donc on l'aime bien, donc on va lui pardonner. Mais grosso modo, s'il vous dit, peut-être ça a marché, peut-être ça a peut-être pas marché. Bon, donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est il y a tellement de retard. Alors vous parlez des associations, parlons des lobbies. On parle de la pollution et des automobiles. La France, le pays qui n'arrive pas à affronter le lobby de l'automobile, c'est la France. Mmh. Les Allemands, ils ont mis 1 milliard d'euros d'amende à Volkswagen parce qu'elle avait trafiqué les moteurs diesel de façon à dépasser les normes sans que ça se voit. Nous attendons toujours le patron, je pense que ma collègue va sûrement être plus précis que moi, le patron d'Audi est en prison sur une affaire comme ça, en prison. Le patron, la deuxième marque automobile, vous imaginez le patron de PSA en prison en France. Personne n'imagine ça. Ça arrive en Allemagne. Et nous attendons toujours la moindre. Je crois que la Renault et Peugeot ne sont toujours pas mis en examen, il me semble, dans la même affaire que celle de Volkswagen. Ça donne une idée du retard. Voilà, les normes.
Justement, est-ce qu'on est en retard aussi? Je vous coupe 2 secondes pour saisir la perche pour Virginie Lepetit. Est-ce qu'on est aussi en retard?
Je vais dire un mot sur Marseille.
On dira un mot sur Marseille après, mais est-ce que vous êtes en retard? Est-ce qu'on est en retard par rapport à d'autres villes d'Europe, en France, sur ces restrictions de circulation?
Ah oui, on est en retard par rapport à d'autres villes d'Europe. On est même en retard par rapport à certaines villes chinoises et à des villes indiennes qui partent de très loin, qui étaient extrêmement polluées, donc qui n'avaient plus le choix de toute façon. Et en France, oui, on a beaucoup de mal à s'attaquer à ça. Et en plus, on commence pas par le bon bout. C'est-à-dire que ce qui est le plus simple, c'est de s'attaquer aux flottes captives. Les flottes captives, c'est les véhicules des entreprises, c'est tout le transport, les transports collectifs, les flottes de bus, etc. Parce que là, on est sur des fonctionnements d'abord qui sont quotidiens et que ce sont des véhicules, on connaît leur parcours et voilà. Et c'est facile de changer une flotte captive. Ça ne demande pas aux citoyens, effectivement, de mettre plus d'argent. Et donc, on commencerait déjà par ça. Ce qu'a fait, par exemple, Shenzhen, une immense ville chinoise, en changeant sa flotte de bus et en passant au tout électrique, il y aurait
commençons
déjà...
Commençons par tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est public, tout ce qui n'est pas particulier.
Comme quand on a commencé, quand on a voulu instaurer les quotas de CO2, on a commencé par quoi ? Par l'industrie. Parce que ce sont là où les leviers, en fait, sont... C'est pas pour du tout pour accabler l'industrie. Les leviers sont plus faciles à déclencher, en fait. C'est simplement ça. C'est une espèce de simplicité.
Qu'est-ce que vous voulez dire sur Marseille, Hervé Nathan ?
On va créer une zone à pollution réduite, je cherche le nom.
ZFE.
Est-ce que ça va s'étendre jusqu'à l'étang d'à côté, qui est un immense port industriel dont les habitants sont malades. L'étang de Berre, dont les habitants sont malades de la pollution des grands navires, qui sont les plus gros pollueurs. Un gros navire qui rentre dans l'étang de Berre, ça pollue comme plusieurs dizaines de milliers de voitures diesel. On va interdire l'entrée des tankers à l'étang de Berre. Moi, je veux bien. Il y a un moment où il faut aussi reprendre les choses. Voilà.
Il n'y a rien sur les transports routiers de marchandises, par exemple. Les camions.
Aujourd'hui, là, on parlait de la réforme récemment de la SNCF. L'essentiel du transport de marchandises passe par la route, le ferroviaire à ce niveau-là est effectivement très en retrait. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Alors, j'ai l'impression vraiment que ces plans, c'est comme vous étiez en train de dire, c'est peut-être, c'est fait de plein de bonnes intentions. Mais dans les faits, ça requiert effectivement certains investissements. On parlait des flottes captives ou autres. Alors là-dessus, on voit rien venir.
En même temps, si on le généralise pas à toutes les métropoles, ça sert à rien que Paris et Grenoble le fassent, parce que c'est de l'impact qui sert à rien. Là,
mais théoriquement, toutes ces zones-là, c'est pour les métropoles de plus de 100 000 habitants. Donc c'est quand même il y a de quoi faire.
Donc il faut y aller.
Bah il y a une question de volumétrie. C'est très juste ce que vous dites. Il faut prendre sur les secteurs où il y a le plus de leviers immédiatement.
Il y a une chose, moi j'ai pas compris, mais peut-être que je vais être démenti. C'est l'État qui a été condamné par la justice européenne parce que nous avons des centres. On dépasse les seuils. Donc il dit qu'il va y avoir 14 zones de faible émission. Mais normalement, donc l'idée, c'est de dire on va faire de la reconnaissance des plaques par des caméras, de façon à ce que maintenant une voiture qui n'est pas conforme aux normes ne puisse plus rentrer. C'est l'État qui va payer les caméras ? Est-ce que c'est lui, puisqu'il c'est lui qui est condamné ?
C'est l'État qui remplacera la voiture au monsieur qui en dira.
Est-ce que c'est l'État qui payera le système de surveillance ou est-ce que c'est les villes qui devront le faire ?
Encore une fois,
je voulais revenir sur
Virginie Le Petit.
On citait tout à l'heure l'exemple allemand. Alors effectivement, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est très très bien pour les Allemands. Simplement, les vieux diesels allemands ont une deuxième vie en Bulgarie, en l'occurrence, et c'est là qu'ils continuent à circuler.
Et donc ils polluent sur la planète ailleurs.
Effectivement, c'est une émission locale, on n'est pas dans le CO2. Mais enfin, ça continue à polluer quand même très largement à Sofia notamment.
Allez, on a beaucoup parlé des voitures et de la pollution, on parlera de vélo dans un instant, juste après l'essentiel de l'info. 20h50, Pauline Pénanec.
Gérard Collomb sera auditionné au Sénat mardi en fin d'après-midi par la commission des lois. Il devra s'expliquer sur la présence d'Alexandre Benalla, ce collaborateur de l'Élysée dans le cortège policier de la manifestation du 1er mai, filmé alors qu'il frappait un manifestant le brassard police au bras. L'Élysée annonce qu'une procédure de licenciement a été engagée. Alexandre Benalla qui est toujours ce soir en garde à vue. 4 Palestiniens tués dans des bombardements de l'aviation israélienne dans la bande de Gaza. Israël qui répostait officiellement à des tirs à la frontière. L'ONU appelle Israël et le Hamas à s'éloigner du bord du précipice. La demande de démise en examen de Tariq Ramadan rejetée. L'islamologue reste mis en examen pour viol sur Enda Ayari. Il avait été incarcéré le 2 février pour viol et viol sur personne vulnérable. Et puis le mercato continue dans le milieu du football. Le milieu offensif international Johan Gourcuff quitte le Stade Rennais. Il signe un contrat d'un an à Dijon, club de Ligue 1.
France Info. 20h, 21h, les informés. Nicolas Creusel.
Pour faire la transition avec le sujet précédent, la pollution, on va parler de vélo et du Tour de France dans un instant, mais est-ce que vous pensez que ce plan vélo qu'on aurait pu avoir aujourd'hui et qu'on n'aura pas finalement avant la rentrée, c'est qu'on le repousse parce qu'il n'est pas prêt, il verra le jour une fois. Là encore, on peut se dire qu'on a beaucoup de retard en France par rapport à d'autres pays sur le vélo, non ? Virginie Le Petit.
Oui, on a beaucoup de retard en France par rapport à d'autres pays. C'est pas seulement une volonté politique, c'est aussi culturel, hein. Le partage de l'espace public et en particulier le partage de la route entre voiture ou véhicule motorisé.
La cohabitation entre vélo et voiture
est beaucoup plus compliquée en France que dans, par exemple, les pays du Nord. Donc, il va falloir une volonté politique et aussi un changement culturel en France pour que ça s'installe.
Alexia Germain, vous pensez qu'à la rentrée, on aura un plan vélo ?
On peut l'espérer. En tout cas, si on a fait un petit détour par Marseille, je crois qu'on peut aussi faire un détour par Paris. Mmh. C'est quand même l'occasion de dire qu'en matière de vélo, on aurait pu donner l'exemple. Enfin, pardon, mais avec ce qui s'est passé sur le Vélib et ce qui se passe aujourd'hui sur l'Autolib,
qui est donc arrêté,
avec les possesseurs de voitures électriques parisiens qui ne savent pas s'ils vont avoir le droit de se brancher sur les bornes Autolib, on marche quand même sur la tête du point de vue de la société civile, on se dit quand même qu'il y a un discours à double entrée.
Alors maintenant, de la ville polluée, je vous emmène sur les cimes où, paraît-il, on respire mieux, il faut l'espérer en tout cas. On était hier à l'Alpe d'Huez pour le Tour de France. On va parler du Tour, alors pas de l'étape d'aujourd'hui, direction Valence, qui était, à part la présence du Premier ministre, qui était peut-être le fait politique du jour dans la tempête Benalla. Non, ce qui m'intéresse pour vous parler du Tour de France, c'est ce qu'on a vu hier dans la montée de l'Alpe d'Huez, montée mythique, les 21 lacets, des spectateurs si ce n'est violent, du moins agressif sur le bord des pentes, des fumigènes, l'équipe Sky qui se fait copieusement siffler, une tension quand même peu commune sur le Tour de France qui a nécessité ce matin cet appel au calme lancé sur France Info par le patron du Tour, Christian Prudhomme.
Ce que j'ai envie de dire, c'est d'appeler les gens à la sérénité, ce qui me paraît indispensable après la montée de l'Alpe d'Huez d'hier. Il y a eu des gens qui couraient dans tous les sens, qui manifestement ne respectent pas les coureurs, qui voulait prendre des selfies, etc., à côté des coureurs, en se moquant totalement de ce qui pouvait arriver aux champions. Mais c'est surtout à cause des fumigènes qui n'ont rien à faire sur la route du Tour, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans un mur de ils ne voyaient plus rien. Il faut respecter les coureurs du Tour, tous les coureurs du Tour et les champions.
Alors on a vu ces images de fumigènes hier, la presse, le Parisien, aujourd'hui en France, l'équipe notamment, en ont fait leur titre ce matin. Vous avez vu vous aussi ces images, qu'est-ce que ça vous inspire?
Deux choses, alors s'il s'agit simplement de s'en prendre à Chris Froome parce qu'il a été dopé, on peut soupçonner un peu de chauvinisme.
Soupçonné de dopage.
Soupçonné, j'ai dit.
Vous avez dit dopé.
Oui, il était soupçonné, oui, blanchi de dopage.
Et blanchi
de dopage. On peut soupçonner chez les gens chez les spectateurs violents et injurieux, un peu de chauvinisme, parce que moi je me souviens de la même, enfin, quasiment les, alors, il y a quelques années quand même, je me souviens que un coureur français dopé à l'insu de son plein gré était porté en triomphe par les aficionados du vélo.
C'était il y a 20 ans,
mais à l'époque on trouvait voilà, et d'une certaine manière voilà, donc on peut soupçonner quand même ça, et c'est pas joli. La deuxième chose, c'est que en fait ce qui est en train de se passer apparemment, c'est une vraie désaffection populaire par rapport à un sport, parce que ce sport est en train de se normaliser, et un peu comme le foot. C'est-à-dire, on s'ennuie en regardant le Tour de France. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme équipe là. En l'occurrence, c'est l'équipe Sky, celle
qui
de Froome d'ailleurs,
qui neutralise la course
et qui fait que, eh ben, il y a plus de romantisme, il y a plus de possibilité de voir quelqu'un sortir du peloton et tout d'un coup faire un exploit extraordinaire, etc. Ce qui faisait vibrer les foules, et du coup, semble apparemment, il y a eu la Coupe du Monde de foot, donc qui a fait partir un peu,
qui a réduit le
nombre de spectateurs, mais apparemment, il y a une vraie désaffection. Il y aurait eu que 3, enfin, il y avait très peu de gens, par exemple, sur les boucles.
Hier à l'Alpe d'Huez, il y avait beaucoup moins de monde. Que les années précédentes.
Alors que c'est là où les gens attendent justement, est-ce qu'il y a un exploit? C'est là où on a vu Indy Renn monter comme un. Bon, alors il était un peu.
Il avait un sang un peu bizarre, mais bon.
C'est là où Virenque s'est illustré, etc. Et donc là, il n'y avait aucun espoir que ça se produise.
Alexia Germain.
Alors il n'y a pas que le directeur du Tour qui est monté au créneau. Il y a également Romain Bardet qui a dit qu'il fallait que le sport reprenne ses droits. Je crois qu'il faut qu'on garde à l'esprit aussi que c'est un des sports où on est au contact contact du public direct. Vraiment direct. Donc ça, c'est à prendre en compte dans toutes les analyses que l'on fait. Et alors, pour faire le parallèle avec la coupe, enfin avec le football, moi j'ai une petite théorie qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'on a surtout eu pendant ce moment-là notre shoot de bonheur collectif,
d'adrénaline
et finalement de méritocratie, ce qui fait que vous aviez dit que ça laissait peu de place pour les spectateurs, pour se dédoubler, mais quelque part c'est aussi une façon pour eux de dire qu'ils ont peut-être envie d'un sport un peu plus propre.
Mais il y a quand même Virginie Lepetit.
Oui, justement, le paradoxe, c'est que apparemment 20 ans après l'affaire Festina, ce sport est plus propre, en tout cas.
Ah oui, ça, il est incontestablement voilà, plus propre.
Et donc,
incontestablement, voilà, ça, on peut pas le dire.
Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il redevient propre. Bon, toujours, ennuyeux effectivement, à cause d'une domination économique et technique d'une équipe, mais. Donc, et les gens sont beaucoup plus choqués qu'avant.
Par contre, ce qu'on a vu hier, vous serez d'accord avec moi, si ça condamne le vélo à mettre des barrières partout, à faire peur aux familles, c'est quand même le sport où on va en famille. Ouais. On avait peur d'aller dans les stades de foot, certains en tout cas. Là, on va pas avoir peur d'aller voir le Tour de France, c'est quand même dommage.
Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin, ça devait rester un sport populaire, mais en même temps, alors, c'est triste que c'est en train de dégénérer de cette manière, de contester, parce que visiblement, ces expressions ont été, ou ces manifestations ont été contre l'équipe Sky.
Oui, plus contre
le vélo en général, mais ce serait triste que ça devienne cela. Et puis, ce qui est triste, effectivement, ce que vous avez dit, que ça devienne des sports normalisés, où c'est une seule équipe qui domine, quoi. Bon, ça devient ennuyeux. Si on sait à l'avance l'équipe qui l'emporte, et puis bon.
Alors que le sport, c'est la recherche de l'excellence, justement, et qu'on devrait toujours avoir cette porte ouverte.
Et un peu de la surprise.
Un peu de surprise.
Le petit poussé, quelque chose qui arrive, qui on n'attend pas, quoi.
Allez, le mot de la fin pour ce soir. Merci à vous, Virginie Lepetit, Courrier International de la Une cette semaine.
France Génération Bleue, la presse étrangère salue la victoire. Et puis on a aussi un hors-série en kiosque sur les animaux extraordinaires.
Très bien, pour les bonnes lectures de vacances pour ceux qui partent demain, par exemple. Hervé Nathan, Marianne.
Les lobbies de Macron, parce qu'il y a aussi l'autre face, c'est les lobbies économiques qui sont très très présents dans l'entourage du président, les hauts fonctionnaires, la pharmacie, etc. etc. Il y a beaucoup de monde qui est très influent.
Merci à vous, merci aussi à Frédéric Farré, Alexa Germont, bonne soirée.